Marco Valdo ou les saisons en ville par Italo Calvino, deuxième cassette, première face, page 60. Printemps, chapitre 9, le bon air. Ces gosses, dit le médecin de la mutuelle, ils auraient besoin de respirer un peu de bon air sur la hauteur, de courir dans l'herbe. Il se tenait debout entre les lits du sous-sol où habitait la famille et appuyait son stéthoscope sur le dos de la petite Teresa, entre ses omoplates aussi frêles que les ailes d'un oisillon sans plumes. Il y avait deux lits et les quatre enfants malades s'y trouvaient couchés tête bêche, les joues rouges, les yeux brillants de fièvre. « Dans l'herbe comme les plates-bandes de la place ?» demanda Michelino. « Une hauteur comme celle du gratte-ciel ?» demanda Filippetto. « Du bon air ? De l'air bon à manger alors ?» demanda Pietruccio. Marco Valdo, grand et efflanqué, et sa femme Domitilla, petite et trapue, se tenaient appuyés d'un coude des deux côtés d'une commode branlante. Sans bouger le coude, ils levèrent leur autre bras et le laissèrent retomber le long de leur corps, grommelant ensemble. « Et où voulez-vous qu'on les envoie ? Comment voulez-vous qu'on fasse avec 8 bouches à nourrir et criblées de dettes comme on est ?»« Le meilleur endroit où qu'on peut les envoyer, précisa Marco Valdo, c'est encore dans la rue. L'air pur, on en aura quand on sera expulsé et qu'il faudra dormir à la belle étoile, conclut Domitilla. Dès qu'ils furent guéris, un samedi après-midi, Marco Valdo emmena les gosses faire un tour sur les collines. Ils habitaient le quartier de la ville le plus éloigné des dites collines. Pour y arriver plus vite, ils firent un long trajet en tram, un tram bondé, et les enfants ne virent d'abord autour d'eux que les jambes des voyageurs. Le tram se vida peu à peu, et ils aperçurent par les fenêtres enfin dégagées une avenue qui montait. Arrivés au terminus, ils commencèrent leur ascension. On était au début du printemps. Les arbres fleurissaient sous un tiède soleil pâle. Les enfants regardaient autour d'eux, un peu dépaysés. Marco Valdo les entraîna vers un petit chemin en escalier qui se perdait dans la verdure. « Pourquoi qu'il y a un escalier tout seul et pas de maison dessus ?» demanda Michelino. « C'est pas un escalier de maison, c'est comme une rue. »« Une rue. Et les autos, comment qu'elles font avec les marches alors ?» Autour d'eux, il y avait des murs d'où dépassaient des arbres. « Des murs sans toit ? Ça a donc été bombardé ?»« C'est des jardins. C'est un peu comme des cours, » expliquait le père. « La maison est dedans, derrière les arbres. » Michelino n'était pas convaincu. Il hocha la tête. « Mais les cours, c'est dans les maisons, pas dehors !» La petite Teresa demanda. « Les arbres, alors, ils demeurent dans ces maisons-là » À mesure qu'il montait, Marco Valdo avait l'impression de laisser derrière lui l'odeur de moisie du magasin où il manipulait des paquets 8 heures par jour et les taches d'humidité de son logement et la poussière qui flottait dorée dans le cône de lumière du soupirail et les accès de toux de la nuit. Maintenant, ses enfants lui paraissaient moins pâles, moins malingres, s'identifiant presque déjà à cette lumière et à cette végétation. « Ça vous plaît ici, oui ?»«
Oui. »«
Pourquoi ?»« Parce qu'il n'y a pas de flics qu'on peut arracher les plantes et lancer des pierres. »«
Et respirer. Vous respirez ?»«
Non. »«
Ici, l'air est très bon. »
Les enfants se mirent à mastiquer. « Penses-tu, il sent rien, il n'a pas de goût ?» Ils montèrent presque jusqu'au sommet de la colline. À un tournant, la ville leur apparut là-bas, tout au fond, s'étendant sans banlieue sur la grise toile d'araignée des rues. Les gosses se roulaient dans l'herbe comme s'ils n'avaient fait que cela toute leur vie. La brise se leva, c'était déjà le soir. En ville, quelques lumières s'allumaient en un scintillement confus. Marco Valdo ressentit un peu ce sentiment qu'il avait éprouvé quand, jeune homme, il était venu à la ville et qu'il y était attiré par ses rues et ses lumières comme s'il en attendait qui sait quoi. Les hirondelles montaient droit dans le ciel, puis s'élançaient à corps perdu sur la ville. Alors il sentit la tristesse l'envahir à l'idée de devoir retourner là-bas, et il repéra dans le paysage grumeleux l'ombre de son quartier. Il lui apparut telle une lampe plombée, stagnante, recouverte par les écailles innombrables des toits et par les lambeaux de fumée flottant au faîte des cheminées. Il faisait frisquet. Peut-être convenait-il de rappeler les enfants. Mais en les voyant se balancer doucement sur les branches basses d'un arbre, il repoussa cette idée. Michelino, s'approchant, demanda « Papa, pourquoi qu'on viendrait pas habiter ici ?»«
Gros bêta, ici il n'y a pas de maison, personne y habite !» répondit Marco Valdo avec agacement, parce qu'il était justement en train de rêver de pouvoir venir vivre là, sur la colline.
« Personne ?» dit Michelino. « Et ces messieurs là-bas, regarde !» Le soir commençait à tomber et des hommes approchaient, cheminant à travers champs. Des hommes de tout âge, tous vêtus du même et lourd costume gris, boutonné comme un pyjama, tous coiffés d'une casquette et ayant chacun une canne. Ils marchaient par petits groupes, quelques-uns parlant à haute voix ou riant, enfonçant leurs cannes dans l'herbe ou les traînant accrochés aux bras par le manche.
« Qui que c'est ? Où qu'ils vont ?» demanda Michelino.
Mais Marco Valdo les regardait sans rien dire. L'un d'eux, un gros homme d'une quarantaine d'années, passa près de lui.
« Bonsoir, » dit-il. « Alors quoi de neuf en ville ?»«
Bonsoir, » dit Marco Valdo. « Mais pour du neuf, je vois pas ce que vous voulez dire. »«
Rien, c'est histoire de parler, » répondit l'homme en s'arrêtant.
Il avait une large figure toute pâle, avec seulement une ombre de rose ou de rouge au haut des joues.
« Je dis toujours ça à ceux qui montent de la ville, » expliqua-t-il. « Ça fait 3 mois que je suis ici, alors vous comprenez. »«
Vous descendez jamais ?»«
Ben, quand les médecins voudront bien. »
Il eut un petit rire.
« Et que cela ?»
Il se frappa la poitrine.
« Mes sacrés poumons me le permettront. »
Il eut de nouveau un petit rire un peu haletant.
« Ça fait déjà 2 fois qu'ils m'ont déclaré guéri. Et à peine revenu à l'usine, pan, c'est reparti. Alors ils m'auraient expédié ici. Vive la joie. »
« Eux aussi ?» demanda Marco Valdo en montrant les autres hommes qui s'étaient égaillés alentour, cependant qu'il cherchait du regard Filippetto, Teresa et Pietruccio, qu'il avait perdu de vue.
« Tous des copains de vacances, » dit l'homme en clignant de l'œil. « À cette heure-ci, on a quartier libre avant qu'il sonne la retraite. Nous autres, on se couche tôt. Vous comprenez, on peut pas trop s'éloigner de la frontière. »«
La frontière ?»«
Ben oui, ici c'est encore le terrain du Sana, vous saviez pas ?»
Marco Valdo prit par la main Michelino qui était resté là à écouter, un peu intimidé. La nuit gagnait. En bas, le quartier ne se distinguait plus. Il ne semblait pas que l'ombre l'eût englouti, mais bien que son ombre à lui avait gagné de toutes parts. Il était temps de rentrer.
« Teresa, Filippetto !»
appela Marco Valdo, et il fit quelques pas pour les chercher.
« Excusez-moi, » dit-il à l'homme, « mais je ne vois plus mes autres gosses. »
L'homme leva les sourcils.
« Ils sont là-bas, » dit-il, « ils cueillent des cerises. »
Marco Valdo tourna la tête et vit alors dans un fossé un cerisier autour duquel les hommes vêtus de gris s'affairaient, baissant les branches à l'aide du manche de leur canne et cueillant les cerises. Teresa et ses 2 frères, tout contents, en cueillaient aussi, en prenaient dans les mains des hommes et riaient avec eux.
« Il se fait tard, » dit Marco Valdo, « et il fait froid, on va rentrer. »
Le gros homme agitait sa canne en direction des fils de lumière qui s'allumaient en bas dans le lointain.
« Le soir, » dit-il, « avec cette canne, je fais ma promenade en ville. Je choisis une rue, une file de réverbères, et je la suis comme ça. Je m'arrête devant les vitrines, je rencontre des gens, je les salue. Quand vous marcherez en ville, pensez-y quelquefois. Ma canne vous suit. »
Les enfants revenaient
couronnée de feuillage, la main dans la main des pensionnaires du sanatorium. « Ce qu'on est bien ici, papa !» dit Teresa. « On viendra y jouer, » dit. « Papa !» s'écria Michelino. « Pourquoi qu'on ne vient pas habiter, nous aussi, avec ces messieurs-là »
« Il est tard. Dites au revoir à ces messieurs et dites-leur aussi merci pour les cerises. En avant, allons-y !»
Ils prirent le chemin du retour. Ils étaient fatigués. Marco Valdo ne répondait plus à leurs questions. Filippetto voulut que son père le prît dans ses bras, Pietruccio sur ses épaules. Teresa se faisait traîner par la main. Michelino, le plus grand, marchait devant, tout seul, en donnant des coups de pied dans les cailloux. Été. Chapitre 10. Un voyage avec les vaches. Les bruits de la ville qui pénètrent les nuits d'été dans les chambres de ceux qui ne peuvent pas dormir à cause de la chaleur, les vrais bruits de la cité nocturne se font entendre quand, à une certaine heure, le vacarme anonyme des moteurs s'apaise, se tait, et que dans le silence s'entendent soudain, discrets, nets, gradués suivant la distance, le pas d'un noctambule, le bruissement du vélo d'un vigile, le brouhaha lointain d'une bagarre, les ronflements dans les étages supérieurs, la plainte d'un malade, le tic-tac d'une pendule qui sonne toutes les heures. Jusqu'à ce que commence à l'aube le concert des réveils dans les HLM et qu'un tram passe en ferraillant. C'est ainsi qu'une nuit, entre sa femme et ses enfants qui transpiraient dans leur sommeil, Marco Valdo écoutait, les yeux fermés, ce qui, de cette poussière de sons étouffés, filtrant de la chaussée par les soupiraux, tombait jusqu'au fin fond de son sous-sol. Il entendait le talon guilleret et rapide d'une femme en retard, la semelle fatiguée du ramasseur de mégots aux stations irrégulières, le sifflement du solitaire, et de temps en temps des bribes d'une conversation entre copains, tout de même suffisantes pour deviner s'il parlait de sport ou d'argent. Mais dans la nuit chaude, ces bruits perdaient tout intérêt, se dissolvaient comme amortis par la touffeur qui envahissait les rues vides. Et cependant, ils paraissaient vouloir s'imposer, sanctionner leur propre domination sur ce royaume déserté. En tout être humain, Marco Valdo reconnaissait tristement un frère, cloué comme lui au temps des vacances, par les dettes, une famille nombreuse, un salaire de famine, à ce four de ciment poussiéreux et calciné. Et comme si l'idée de ces vacances impossibles venait de lui ouvrir les portes du rêve, il lui sembla entendre dans le lointain un tintement de clarine, l'aboiement d'un chien et même un bref mugissement. Mais il avait les yeux grands ouverts, ne rêvait pas et s'efforçait, en tendant l'oreille, d'obtenir une confirmation ou bien un démenti à ses impressions incertaines. Au vrai, une rumeur lui parvenait comme faite de centaines et de centaines de pas, lent, désordonné, sourd, une rumeur qui se rapprochait et dominait tout autre bruit, sauf, justement, le tintement rouillé des clarines. Marco Valdo se leva, enfila sa chemise et son pantalon. « Où tu vas ?» demanda sa femme qui ne dormait que d'un œil.
« Il y a un troupeau qui passe dans la rue. Je vais voir. »«
moi aussi !» s'écrièrent les gosses qui se réveillaient toujours au bon moment.
C'était un troupeau comme il en passe de nuit, traversant la ville au début de l'été pour gagner la montagne lors de la transhumance. Une fois dans la rue, les gosses, les yeux encore tout gonflés de sommeil, y virent couler un fleuve de croupes grises et tachetées qui débordait sur le trottoir et frôlait les murs, couverts d'affiches, les rideaux de fer baissés, les poteaux des panneaux de stationnement interdits, les pompes à essence. Avançant prudemment leurs sabots pour descendre du trottoir au carrefour, le museau collé au derrière de celles qui les précédaient, sans même un semblant de curiosité, les vaches traînaient après elles leur odeur d'étable, de fleurs des champs, de lait et le mélancolique tintement des clarines. La ville ne semblait guère les intéresser, tout absorbées qu'elles étaient déjà dans leur univers d'alpages humides, de brumes montagnardes et de guets de torrents. Les vachers, au contraire, paraissaient impatients, comme agacés par l'air de supériorité de la ville. Ils s'essoufflaient à courir inutilement aux côtés du troupeau, levant leurs bâtons et hurlant d'une voix haletante et rauque. Les chiens, auxquels rien de ce qui est humain n'est étranger, affectaient la désinvolture, marchant la tête levée, agitant leurs sonnailles, attentifs à leur travail, mais on voyait bien qu'eux aussi étaient inquiets et embarrassés, sinon ils se seraient laissés distraire et se seraient mis à flairer les recoins, le pied des réverbères, les taches sur le pavé, ce qui est bien le premier souci de tous les chiens des villes. « Papa, dirent les gosses, les vaches c'est comme les trams, elles ont aussi des arrêts ? Où que c'est qu'il est le terminus des vaches ?»« Elles ont rien à voir avec le tram, expliqua Marco Valdo. Elles vont à la montagne. »« Elles mettent des skis ? Demanda Pietruccio. « Elles vont au pâturage, manger de l'herbe. »« Et on leur colle pas une amende si elles abîment les prés ?» Michelino, lui, ne posait pas de questions. Plus grand que les autres, il avait déjà ses idées sur les vaches et ne s'occupait présentement qu'à les vérifier en examinant les bêtes, leurs cornes inoffensives, leurs croupes, leurs fanons bigarrés. Ce faisant, il suivait le troupeau trottant à ses côtés comme un chien de berger. Quand les dernières vaches furent passées, Marco Valdo prit ses gosses par la main pour retourner dormir, mais il ne vit pas Michelino. Au sous-sol, il demanda à sa femme. « Michelino est déjà revenu ?»« Michelino, il n'était donc pas avec toi ?»« Je parie qu'il a suivi le troupeau, et qui sait où il est allé ?» se dit Marco Valdo en regagnant la rue au pas de course. Le troupeau avait déjà traversé la place et Marco Valdo dut rechercher la rue où il avait tourné, mais il semblait bien que d'autres troupeaux traversaient aussi la ville cette nuit-là, chacun par une rue différente, chacun se dirigeant vers sa propre vallée. Marco Valdo en rattrapa un, mais il s'aperçut que ce n'était pas le bon. Dans une rue transversale, il vit qu'un second troupeau, quatre rues plus bas, venait dans sa direction et courut à sa rencontre. Les vachers lui dirent alors qu'ils en avaient croisé un autre qui allait dans la direction opposée. Si bien que jusqu'à ce que le dernier tintement de la dernière sonnaille se fût dissipé dans les lueurs de l'aube, Marco Valdo continua inutilement ses recherches. Le commissaire de police auquel il s'adressa pour signaler la disparition de son fils lui dit « Derrière un troupeau ? Il a sûrement dû aller en montagne pour y passer ses vacances. Sacré vénard ! Il vous reviendra bien gras et tout bronzé, vous verrez. » L'hypothèse du commissaire se trouva confirmée quelques jours plus tard par un employé de la SBAV où travaillait Marco Valdo, qui revenait de vacances, les ayant prises avec un premier groupe. Il avait croisé l'enfant dans un col de montagne. Michelino était avec un troupeau, envoyait le bonjour à sa famille et se portait bien. Marco Valdo allait et venait dans la poussiéreuse touffeur de la ville, en pensant à son fils qui avait bien de la chance. À son fils qui maintenant devait sûrement passer ses journées à l'ombre des sapins, sifflotant, un brin d'herbe à la bouche, regardant un peu plus bas les vaches se déplacer lentement sur l'alpage et écoutant le murmure d'un ruisseau monté du fond de la vallée. Domitilla, au contraire, était impatiente de le voir revenir. « Tu crois qu'il reviendra en train ou en car ?» Ça fait déjà une semaine, ça fait déjà un mois, il doit faire mauvais temps là-haut. Elle ne cessait de s'inquiéter, bien que d'en avoir un de moins à table chaque jour fût déjà un soulagement. Quel vénard, se disait Marco Valdo, il est au frais et se bourre de beurre et de fromage. Et chaque fois qu'il apercevait au bout d'une rue la découpure grise et blanche des montagnes, à peine voilé par un léger brouillard de chaleur, il avait l'impression d'être au fond d'un puits. Il lui semblait voir briller là-haut dans la lumière des branches d'érable et de châtaignier et voltiger bourdonnantes des abeilles en liberté avec Michelino, lézardant, heureux, se nourrissant de lait, de miel et de mûres. Lui aussi, pourtant, attendait soir après soir le retour de son fils, bien que ne se préoccupant guère, comme sa femme, de l'horaire des trains et des cars. Il demeurait toute la nuit, l'oreille aux aguets, écoutant les pas sur le trottoir, comme si le soupirail était un coquillage où s'entendaient, dès qu'on y appuyait l'oreille, les bruits de la montagne. Et voilà qu'une nuit, se dressant brusquement dans son lit, il entendit se rapprocher sur la chaussée, non, ce n'était pas une illusion, un piétinement caractéristique de sabots fendus, à quoi se mêlait le tintement des clarines. Toute la famille se précipita dans la rue. Le troupeau revenait, lent et lourd. Michelino aussi était de retour. Encore tout ensommeillé, à califourchon sur la croupe d'une vache, s'agrippant au collier de la bête, sa tête dodelinante à chaque pas. Ils le soulevèrent à bout de bras, le pressèrent contre leur poitrine, l'embrassèrent. Il semblait à demi étourdi. « Tu vas bien ? C'était beau ?»«
Oh ouais !»«
T'avais pas envie de revenir ?»«
Si !»«
C'est beau la montagne ?»
Il se tenait debout devant eux, les sourcils froncés, le regard dur.
« Je bossais comme un nègre, » dit-il, et il cracha devant lui. Il avait maintenant un visage d'homme. Chaque soir, il fallait courir derrière les trayeurs, d'une bête à l'autre, avec des seaux, et puis aller les vider dans des bidons, vite, vite, toujours plus vite, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et le matin, de bonne heure, les bidons, il fallait les faire rouler jusqu'au camion qui les descendait en ville. Et il fallait compter aussi, compter, toujours compter, les vaches, les bidons, et gare si on se trompait.
Mais t'allais quand même dans les prés, non, quand les vaches paissaient.
J'avais jamais le temps, toujours quelque chose à faire, pour le lait, les litières, le fumier. Et tout ça, pour quel prix, je vous le demande, comme j'avais pas de contrat de travail. Vous savez ce que j'ai touché ? Une misère, une vraie misère. Mais maintenant, si vous croyez que je vais vous donner quelque chose, vous vous gourrez. Allez, allons nous coucher, je tombe de sommeil.
Il haussa les épaules, renifla un bon coup et entra dans la maison. Cependant, le troupeau s'éloignait, poursuivant son chemin au long de la chaussée et traînant derrière lui, trompeurs et engageants, l'odeur des foins et le tintement des clarines. Automne. Chapitre 11. Le lapin vénéneux. Quand le jour arrive où l'on va quitter l'hôpital, on le sait dès le matin, et pour peu qu'on soit en forme, on se promène à travers les salles. On se remet à marcher comme lorsqu'on sera sorti. On sifflote, on joue au type guéri avec les malades, pas pour qu'ils nous envient, non, mais pour le plaisir de leur parler d'un ton encourageant. On voit le soleil au travers des baies vitrées, ou bien le brouillard quand il y en a. On entend les bruits de la ville. Et tout cela nous paraît fort différent de ce qu'on voyait ou entendait chaque matin. Lumière et bruit d'un monde inaccessible en nous éveillant dans notre lit de fer émaillé. Maintenant, dehors, il y a de nouveau notre univers et nous le reconnaissons, naturel et familier. Et brusquement, voilà qu'on perçoit de nouveau l'odeur de l'hôpital. Un matin, Marco Valdo, guéri, flânait de la sorte, en attendant pour s'en aller qu'on inscrive quelque chose sur son livret de la mutuelle. Le docteur prit ses papiers et lui dit « Attendez-moi là !» et le laissa seul dans son laboratoire. Marco Valdo regardait les meubles blancs émaillés qu'il avait tellement détestés, les éprouvettes pleines de substances louches, et s'efforçait de se réjouir à l'idée qu'il était sur le point de quitter tout cela, mais il n'en ressentait pas pour autant ce plaisir auquel il se serait attendu. Peut-être était-ce le fait de devoir retourner au magasin pour y décharger les caisses, ou d'imaginer les bêtises que ces gosses avaient certainement dû faire en son absence. Et puis surtout, il y avait tout ce brouillard qui l'attendait au dehors, et qui lui faisait penser qu'il allait sortir dans le vide, se dissoudre dans un néant d'humidité. Aussi regardait-il autour de lui, avec le vague besoin de s'attacher à quelque chose qui se serait trouvé là, mais tout ce qui l'entourait lui paraissait minable et le mettait mal à l'aise. Ce fut alors qu'il aperçut un lapin dans une cage. C'était un lapin blanc, au pelage long et duveté, avec un petit bout de nez rose, des yeux rouges effrayés et des oreilles presque sans poils aplaties sur le dos. On ne pouvait pas dire qu'il était gras, mais dans cette cage étroite,
son corps ballonné et recroquevillé gonflait le grillage d'où dépassaient des touffes de poils qu'agitait un léger tremblement. Sur une table, près de la cage, traînaient des restes d'herbe et une carotte. Marco Valdo se dit qu'enfermé comme il l'était, le lapin devait être très très malheureux de voir cette carotte et de ne pas pouvoir la manger. Alors, il ouvrit la cage, mais l'animal n'en sortit pas. Il restait dedans, immobile, avec seulement un petit mouvement du museau, comme s'il faisait mine de mastiquer pour se donner une contenance. Marco Valdo prit la carotte, l'approcha du lapin, puis la retira lentement pour engager celui-ci à sortir. Le lapin suivit, mordit prudemment dans la carotte, puis se mit à la grignoter avec application dans la main de Marco Valdo. Celui-ci lui caressa le dos, tout en le palpant pour voir s'il était gras. On sentait un peu les os sous le poil. De cela, et de la façon dont il tirait la carotte, on devinait qu'on devait le nourrir plutôt chichement. « S'il était à moi, se dit Marco Valdo, je le gaverais jusqu'à ce qu'il devienne comme un ballon. » Et il le regardait amoureusement, comme un éleveur qui parviendrait à faire coexister dans un même mouvement de l'âme l'affection qu'il porte à la bête et la perspective d'un bon civet. Voilà qu'à l'instant de partir, après les tristes jours d'une hospitalisation qui n'en finissait pas, il découvrait une présence amie qui aurait suffi à occuper ses heures et ses pensées. Et il lui fallait l'abandonner pour regagner la ville brumeuse où on ne rencontre pas de lapin. La carotte était presque finie. Marco Valdo prit la bête dans ses bras, cherchant autour de lui quelque chose d'autre à lui donner. Il lui mit le museau tout près d'un géranium en pot qui se trouvait sur le bureau du docteur, mais le lapin ne parut pas l'apprécier. Juste à ce moment, Marco Valdo entendit le pas du docteur qui revenait. Comment lui expliquer pourquoi il tenait le lapin dans ses bras ? Marco Valdo portait un blouson de travail serré à la taille. Il fourra vivement le lapin dessous, boutonna le vêtement, et pour que le docteur ne vît point le renflement très sautant qu'il avait sur la poitrine, il le fit passer dans son dos. Apeuré, le lapin se tint coi. Marco Valdo reprit ses papiers et fit repasser le lapin sur sa poitrine, car il lui fallait se retourner pour sortir.
« Ah, finalement te voilà guéri !» dit M. Villigelmo, le chef magasinier, en le voyant arriver. « Qu'est-ce qui t'est donc poussé là ? » demanda-t-il en désignant le renflement du blouson. « Ils m'ont mis un emplâtre chaud contre les crampes, » dit Marco Valdo.
Au même moment, le lapin sursauta et Marco Valdo bondit comme un épileptique.
« Qu'est-ce qui te prend ? » s'exclama M. Villigelmo. « C'est rien, j'ai le hoquet, » répondit Marco Valdo, tout en repoussant le lapin dans son dos. « Tu n'es pas encore tout à fait remis à ce que je vois, » dit le chef.
Le lapin cherchait à grimper sur le dos de Marco Valdo et celui-ci secouait les épaules pour le faire descendre.
« T'as des frissons. Rentre chez toi et tâche d'être guéri pour demain. »
Marco Valdo rentra chez lui, tenant le lapin par les oreilles, comme un chasseur qui a de la chance.
« Papa ! Papa ! » s'écrièrent les gosses en se précipitant vers lui. « Où que tu l'as pris ? Tu nous le donnes ? C'est un cadeau pour nous ?»
Et il voulait tout de suite le lui arracher des mains.
« T'es revenu ?» lui dit sa femme.
Et au coup d'œil qu'elle lui lança, Marco Valdo comprit que le temps de son hospitalisation avait seulement servi à Domitilla à accumuler de nouveaux motifs de rancœur contre lui.
« Une bête vivante » ajouta-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux en faire ? Ça salit partout !»
Marco Valdo débarrassa la table et posa le lapin au milieu. L'animal s'aplatit comme s'il cherchait à disparaître.
« Gare à qui il touche, » dit-il, « c'est notre lapin et il va tranquillement engraisser jusqu'à la Noël. »«
Mais c'est un lapin ou une lapine ?» demanda Michelino. La possibilité que ce fût une lapine n'avait jamais effleuré Marco Valdo. Un nouveau plan lui vint aussitôt à l'esprit. Si c'était une femelle, on pouvait lui faire faire des petits et faire de l'élevage. Déjà dans son imagination, les murs humides du logement cédaient la place à une ferme verte en pleine campagne.
C'était un lapin.
Mais Marco Valdo avait désormais en tête cette idée d'élevage.
Oui, bien sûr, c'était un mâle, mais un très beau mâle
auquel on pouvait donner une épouse et la possibilité de se créer une famille.
Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger puisqu'on a tout juste assez pour nous ? Demanda Domitila d'un ton aigre.
C'est mon affaire, dit Marco Valdo. Le lendemain, à la SBAV, il arracha une feuille à chacune des plantes vertes qui ornaient les bureaux de la direction et qu'il sortait chaque matin pour les arroser puis remettait en place. Ces feuilles étaient larges, brillantes d'un côté, mates de l'autre. Il les glissa sous son blouson. Puis, apercevant une employée qui approchait avec un petit bouquet de fleurs, il lui demanda
« C'est votre amoureux qui vous en a fait cadeau ? Vous voulez pas m'en donner une ?»
Il empocha aussi la fleur. Un garçon qui épluchait une poire, il lui dit
« Laisse-moi la peau !»
Et comme ça, avec une feuille par-ci, une écorce par-là, un pétale ailleurs, il espérait bien nourrir la bestiole. À un moment donné, M. Billy Gelmo le fit appeler.
« Est-ce qu'ils auraient déjà remarqué quelque chose pour les plantes ?»
se demanda Marco Valdo, habitué à se sentir toujours en faute. Chez le chef magasinier, il y avait le docteur de l'hôpital, deux types de la Croix-Rouge et un agent de police.
Écoute, lui dit le docteur, un lapin a disparu de mon laboratoire. Si tu sais quelque chose, il vaut mieux ne pas faire le malin, parce que nous lui avons inoculé les germes d'une maladie terrible, et il peut la répandre dans toute la ville. Je ne te demande pas si tu l'as mangé, parce qu'à cette heure-ci, tu ne serais déjà plus de ce monde.
Une ambulance attendait au dehors. Ils y montèrent en hâte et avec un hurlement continu de sirène, traversèrent rues et avenues, fonçant vers la maison de Marco Valdo. Et le parcours était jalonné par une traînée de feuilles, d'épluchures et de fleurs que Marco Valdo jetait tristement par la fenêtre de la voiture. Ce matin-là, la femme de Marco Valdo ne savait vraiment pas quoi mettre dans la marmite. Elle regarda le lapin que son mari avait rapporté la veille et qui était maintenant dans une cage de fortune pleine de copeaux de papier.
« Il est tombé pile !» se dit-elle. « On n'a pas d'argent. Le mois a déjà filé en médicaments supplémentaires que la mutuelle rembourse pas. Les commerçants nous font plus crédit. Pas question de faire de l'élevage et d'attendre la Noël pour le mettre au four. On n'a pas de quoi manger. Il faudrait encore engraisser ce lapin-là. »
« Isolina, » dit-elle à sa fille, « toi qui es grande, il faut que tu apprennes à faire cuire un lapin. Commence par le tuer, dépouille-le et puis je t'expliquerai comment il faut faire. »
Isolina lisait un hebdomadaire de la presse du cœur.
« Non, génit-elle, commence par le tuer toi-même, dépouille-le et puis je regarderai comment tu le fais cuire. »«
Ah bravo, t'es gentille, » dit sa mère. « Moi, j'ai pas le courage de le tuer. Mais c'est pas compliqué. » Il suffit de le prendre par les oreilles et lui donner un grand coup sur la nuque. Pour le dépouiller, on verra après.
On verra rien, dit sa fille sans lever le nez de son hebdomadaire. Faut pas compter sur moi pour donner des coups sur la nuque d'un lapin vivant. Et pour ce qui est de le dépouiller, ça me viendrait même pas à l'idée.
Les autres gosses écoutaient cela, les yeux écarquillés. La mère réfléchit un instant, les regarda et dit « Mes enfants !» Les enfants, comme s'ils s'étaient donné le mot, tournèrent le dos à leur mère et se dirigèrent vers la porte.
« Attendez, mes enfants !» dit Domitila. « Je voulais vous demander si cela vous ferait plaisir de sortir un peu avec le lapin. On va lui mettre un beau ruban au cou et vous irez vous promener ensemble. »
Les gosses s'arrêtèrent sur le seuil, se regardant l'un l'autre.
« Nous promener où ?» demanda Michelino.
Bah, « Vous pouvez faire un petit tour. Et puis vous irez voir Madame Diomira, vous lui apportez le lapin, et vous lui demanderez si elle veut bien nous le tuer, nous le dépouiller. Elle sait si bien faire ça. »
La mère avait touché la corde sensible. Les enfants, on le sait, se laissent toujours séduire par ce qui leur plaît. Pour le reste, ils préfèrent n'y pas penser.
Ils trouvèrent un long ruban couleur lilas, le nouèrent autour du cou de la bête et s'en servirent comme d'une laisse, se l'arrachant des mains et traînant derrière eux le lapin réticent et à demi étranglé.
« Dites à Madame Diomira, leur commanda leur mère, qu'elle peut garder une cuisse pour elle.
Non, dites-lui plutôt la tête. En bref, elle fera comme elle voudra. »
Les enfants venaient à peine de sortir que le logement de Marco Valdo fut cerné et envahi par des infirmiers, des médecins et des agents de police. Marco Valdo se tenait au milieu d'eux, plus mort que vif. « C'est bien ici quel lapin qui a disparu de l'hôpital. Vite, dites-nous où il est, mais ne le touchez surtout pas. Il porte en lui les germes d'une maladie épouvantable. » Marco Valdo les mena devant la cage, mais elle était vide. « Vous l'avez déjà mangé ?»« Non, non. Où est-il ?»« Chez Madame Diomira. » Ils sortirent, reprenant leur chasse, et frappèrent chez Madame Diomira. « Le lapin ? Quel lapin ? Vous êtes fou ! » En voyant son logement envahi par des inconnus en blouse blanche et en uniforme, qui cherchaient un lapin, la vieille dame manqua s'évanouir. Elle ignorait tout du lapin de Marco Valdo. Au vrai, les trois enfants, voulant sauver le lapin de la mort, avaient eu l'idée de l'emmener en lieu sûr, de jouer un peu avec lui, puis de le laisser filer. Alors, plutôt que de s'arrêter à l'étage de Madame Diomira, ils décidèrent de monter jusqu'au toit terrasse. Ils diraient à leur mère que le lapin avait cassé sa laisse et s'était échappé. Mais il n'était guère d'animal qui semblait aussi peu tenté de fuir que ce lapin-là. Lui faire monter un escalier était tout un problème. Apeuré, il se recroquevillait à chaque marche. Ils finirent par le prendre dans leurs bras. Une fois sur le toit terrasse, ils voulurent le faire courir, mais il ne bougea pas. Ils le posèrent sur le bord d'une corniche pour voir s'il aurait marché comme les chats. Mais on aurait dit qu'il avait le vertige. Ils le hissèrent au sommet d'une antenne de télévision pour voir s'il s'y tenait en équilibre. Non, il tombait. Déçus, les enfants arrachèrent le ruban et laissèrent la bête à un endroit où s'ouvrait devant elle le chemin des toits, mer fuyante et anguleuse, et s'en allèrent. Demeuré seul, le lapin commença à bouger. Il fit quelques pas, regarda autour de lui, changea de direction, se retourna. Puis, par petits bonds, en sautillant, il se mit à progresser sur les toits. Il était né dans un clapier. Son désir de liberté était assez limité. La seule bonne chose qu'il connaissait de la vie, c'était d'être un peu tranquille, sans avoir peur. Maintenant, il pouvait bouger, sans que rien autour de lui ne l'effraie, comme il ne l'avait peut-être jamais fait de sa vie. L'endroit était insolite, mais il n'avait jamais pu se faire une idée précise de ce qui était insolite et de ce qui ne l'était pas. Et depuis qu'il sentait qu'un mal imprécis et mystérieux le rongeait, l'univers entier l'intéressait un peu moins chaque jour. Donc il progressait sur les toits. Et les chats, en le voyant sautiller, se demandaient qui il était et se retiraient craintivement. Cependant, des mansardes, des lucarnes, des balcons, le cheminement du lapin ne passait pas inaperçu. Les locataires commencèrent à s'agiter. L'un posa une bassine de salade sur le rebord de sa fenêtre, épiant derrière ses rideaux. Un autre lança sur les tuiles des trognons de poire qui l'entoura d'un lacet de ficelle. Un autre encore disposa tout au long de la corniche de petits morceaux de carottes qui aboutissaient à sa propre lucarne. Et un mot d'ordre courait de famille en famille chez tous ceux qui habitaient sous les toits. Aujourd'hui, civet de lapin, ou fricassé de lapin, ou lapin rôti. Le lapin avait remarqué ses manèges, ses offres silencieuses de nourriture. Et bien qu'il eût faim, il se méfiait. Il savait que chaque fois que les hommes cherchaient à l'attirer en lui offrant à manger, il en résultait quelque chose d'obscur et de douloureux pour lui. Ou bien on lui enfonçait une seringue ou un bistouri sous la peau, ou bien on le fourrait de force sous un blouson boutonné, ou bien encore on le traînait au bout d'un ruban noué à son cou. Et le souvenir de ses malheurs ne faisait qu'un avec le mal qu'il sentait gagner en lui, avec la lente dégradation organique dont il était constant, avec le pressentiment de la mort, et aussi avec la faim. Mais comme il savait que de toutes ces disgrâces, seule la faim pouvait être soulagée, et qu'il reconnut que ces perfides humains pouvaient, outre lui faire éprouver de cruelles souffrances, lui donner un sentiment de protection et de chaleur humaine dont il sentait également le besoin, il décida de se rendre, de se prêter au jeu des hommes, advienne que pourra. Il commença donc à manger les petits bouts de carottes l'un après l'autre, bien qu'il n'ignorât pas que cela le conduirait de nouveau dans une cage et au martyre, mais en lui permettant de se délecter, peut-être pour la dernière fois, de la bonne odeur des nourritures terrestres. Il se rapprochait de la lucarne et une main allait sûrement en sortir pour l'attraper. Eh bien non. La fenêtre se referma brusquement en le laissant dehors.
C'était là un fait qui échappait à son entendement, un piège qui refusait de se refermer sur lui. Le lapin se retourna pour voir auquel des autres pièges il convenait de se laisser prendre. Mais on ôtait les feuilles de salade, on jetait le lacet, ceux qui regardaient de chez eux s'éclipsaient, fermaient soigneusement lucarnes et fenêtres, les terrasses se vidaient. Cela tenait au fait qu'une camionnette de la police avait traversé la ville, diffusant par haut-parleur le message suivant.
« Attention, attention! Il a été perdu un lapin blanc à poils longs, atteint d'une grave maladie contagieuse. Que toute personne qui le retrouvera sache bien que sa chair est vénéneuse et même que son seul contact peut transmettre des germes nocifs. Toute personne qui le verra se devra de le signaler immédiatement au poste de police, hôpital ou caserne de pompiers le plus proche. »
La terreur se répandit sur les toits. Chacun se tenait sur les gardes. Et dès que l'un ou l'autre apercevait le lapin qui, d'un bond mou, sautait d'un toit sur un toit voisin, il donnait aussitôt l'alarme et tout le monde disparaissait comme à l'approche d'une nuée de sauterelles. En équilibre instable, le lapin avançait. Ce sentiment de solitude, juste au moment où il venait de découvrir la nécessité du voisinage de l'homme, lui paraissait encore plus menaçant, plus intolérable. Pendant ce temps-là, le cavaliere Ulrico, vieux chasseur, avait chargé son fusil avec des plombs de chasse et était allé se poster sur une terrasse derrière une cheminée. Quand il vit affleurer dans le brouillard l'ombre blanche du lapin, il tira. Mais son émotion était telle, à l'idée de la nocivité de la bête, que les plombs s'éparpillèrent et tombèrent un peu plus loin sur les tuiles comme des grêlons. Le lapin les entendit ricocher et l'un d'eux lui transperça l'oreille. Il avait compris. C'était une déclaration de guerre. Désormais, tout rapport avec les hommes était rompu. Alors, en signe de mépris pour eux et pour ce qui lui apparaissait en quelque sorte comme une noire ingratitude, il décida d'en finir avec la vie. Un toit en pente recouvert de tôle s'achevait dans le vide, dans le néant opaque du brouillard. Le lapin y posa ses quatre pattes, prudemment d'abord, puis se laissa aller. Et glissant de la sorte, dévoré et cerné par le mal, il allait vers la mort. Une gouttière le retint un instant au bord du toit, puis il perdit l'équilibre et tomba dans les mains gantées d'un pompier juché au sommet d'une échelle d'incendie. Frustré même de cet ultime geste de dignité animale, le lapin fut embarqué dans l'ambulance qui fila à toute allure en direction de l'hôpital. À son bord se trouvaient aussi Marco Valdo, sa femme et ses enfants, qu'on allait hospitaliser afin de les mettre en observation et de leur faire expérimenter une série de vaccins. Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 89, Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino.